Africa. Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, lundi 27 mai 2019, dans ce JDA, que pensez-vous de la percée de l'extrême droite en France et d'une manière générale en Europe? L'Union européenne a renouvelé son Parlement hier. Cette élection a été marquée par un score en hausse des partis dits populistes et une montée des Verts. En France, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, le Rassemblement national obtient un peu plus de 23% des voix et La République en marche un peu plus de 22%. De son côté, le taux de participation au scrutin s'élève à 50,12%. Et surprise de ce scrutin, la percée des Verts qui se positionne comme la troisième force politique en France avec un peu plus de 13% des suffrages. Alors que pensez-vous de ces résultats? Êtes-vous inquiet du résultat des nationalistes? Nous en parlerons avec Elia Minsoum, sociologue et professeur de relations internationales à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Afrique. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, bonjour la jeunesse africaine. J'appelle pour la CAN qui va se dérouler en Égypte très bientôt. Donc le championnat vient de finir en France et en Europe. Bientôt c'est l'Afrique qui sera en fête. Donc pour cela, j'appelle aux autorités égyptiennes de mettre le paquet pour que cette CAN réussisse, parce que c'est l'honneur de l'Afrique en général. Donc on nous envie, la CAN est très en vue. Elle est regardée depuis les États-Unis, le Canada, l'Afrique, jusqu'en Asie. Alors, il n'y a pas de hooligans sur nous en Afrique. Bon succès et surtout, j'attire l'attention aux autorités égyptiennes, c'est-à-dire de mettre le paquet pour que les stades soient pleins et non d'aller voir seulement le pays organisateur. Parce que dès que le pays organisateur joue, les stades sont pleins et ils ne vont pas encourager les autres équipes étrangères. C'est mauvais. On a vu des exemples dans d'autres pays comme ça là. Donc, organiser des journées continues, les gens travaillent le matin et les après-midi, les stades doivent être pleins partout, même si l'équipe organisateur et organisatrice est éliminée, mais le stade doit être plein. Merci pour tous. La fête de la jeunesse africaine va commencer bientôt. Au revoir et à bientôt.
Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Moi, je voulais parler un peu à mes frères africains. La jeunesse africaine qui a toujours parlé du changement. Non, voilà, on milite pour le changement. On veut voir ces vieux-là partir, et voilà, etc. Et quand j'entends les gens parler sur la radio africaine, ce sont des jeunes, la majorité, qui interviennent. Et quand ils interviennent, chacun vient pour défendre un vieux au pouvoir. Donc, c'est le chef de l'État qui est au pouvoir à l'âge de 72 ans, 73 ans. Ou plus, ces jeunes-là viennent les défendre. Et pendant ce temps, ils veulent le changement. Mais comment voulez-vous le changement dans la mesure où vous êtes derrière des vieux? Vous faites du mal pour ces vieux-là, au pouvoir. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, par exemple, Guillaume Soro se lance dans la politique, en fait, pour son avenir politique, en voulant se positionner en 2020 comme candidat à la présidentielle. Et les voilà des critiques. C'est un 10 ans, il ne va rien faire, il faut qu'il attende encore, il n'est pas encore mûr. Bah, on ne comprend plus rien finalement. Je suis très désolé.
Bonjour Afrique Radio. Moi je viens pour intervenir encore sur la situation dans la République démocratique du Congo. Cette situation, en tout cas, ça rend tout le monde malade. Ça rend malade parce que ça fait un moment que, moi je ne sais pas comment les Congolais ne peuvent pas comprendre que le Congo, même les Occidentaux, ils doivent comprendre que le Congo est sous occupation. Comment un président qui est nommé, soit qui est élu, et il n'a pas la majorité? Comment un président élu, qui doit attendre au moins 5 mois pour nommer Premier ministre? Et après, il faut encore au moins peut-être 4 ou 1 année encore pour former le gouvernement. Mais où allons-nous les Congolais? Les Congolais doivent se réveiller. Est-ce que la face extérieure, le monde extérieur, les Occidentaux, Ils ne savent pas que le Congo est occupé. Nous voulons un fils congolais, un fils du Congo, soit président. Si je serais vraiment le fils du Congo, pourquoi accepter des tractations avec Kabila qui a massacré la population congolaise pendant des années, pendant 18 ans? Et Kabila est en place jusqu'à aujourd'hui. Il a eu la force qu'il n'avait même pas avant. Tout ça en faveur de Tshisekedi. Nous voulons que Tshisekedi soit président, d'accord. Mais qu'il écarte Kabila d'un coup à l'autre, qu'il écarte.
Bonjour, Africa Radio. Celui qui a remplacé Manuel Valls en France, c'est Daniel Cohn-Bendit qui avait qualifié M. Yannick Jadot et les écolos de secte. Eh bien, il mène le même combat qu'avait mené Manuel Valls et qui l'a conduit à se replier en Espagne, à fuir en Espagne, son pays d'origine. Bravo Yannick Jadot. Autour de 12%, d'après les estimations, c'est gagné, c'est bien. Tu es devant toute la gauche. Si 12% de la population, de ceux qui ont voté, c'est une secte, eh bien... On va demander à Cohn-Bendit d'aller se rhabiller.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, donc, dans le JDA, que pensez-vous de la percée de l'extrême droite en France et d'une manière générale en Europe? En France, le ministère de l'Intérieur vient de donner les derniers chiffres concernant l'élection européenne qui s'est tenue hier. Le Rassemblement national obtient 23,31% des voix et La République en marche 22,41%. Dès hier soir, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a appelé le chef de l'État Emmanuel Macron à tirer les conséquences du résultat du scrutin. On l'écoute.
Il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en faisant un référendum sur sa politique et même sur sa personne. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays.
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Du côté de La République en marche, on ne veut pas parler de défaite. La tête de liste Nathalie Loiseau estime que ce résultat permet d'ancrer durablement le parti présidentiel dans le paysage politique français et européen.
Avec l'apport de ses partenaires, La République en marche, un mouvement nouveau qui s'est notamment construit autour de la vision européenne du président de la République, confirme son implantation durable dans la vie politique française. Notre liste enverra ainsi plus de 20 députés européens à Strasbourg et nous serons la délégation nationale la plus nombreuse et de loin dans le nouveau groupe central qui se constitue.
Nathalie Loiseau, tête de liste de La République en marche pour ces élections européennes, est surprise de ce scrutin, la percée des Verts, qui se positionne comme la troisième force politique avec un peu plus de 13% des suffrages. Un encouragement pour l'avenir, d'après la tête de liste des Verts, Yannick Jadot, qui salue la mobilisation de la jeunesse.
La participation a déjoué une partie des estimations des sondages. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes notamment se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu. Et il n'est pas exclu que l'écologie soit la première force politique chez les jeunes. C'est un magnifique message d'avenir.
Yannick Jadot, tête de liste des Verts pour ces européennes. Concernant les autres partis, les Républicains et la France Insoumise réalisent des scores en deçà de leurs récents résultats. La liste Les Républicains obtient un peu plus de 8%, quand les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude avec leurs rivaux du Parti Socialiste autour de 6,4%. Et sachez que le taux de participation au scrutin français s'élève à 50,2%. Selon les projections du Parlement européen, le groupe nationaliste Europe des Nations et des Libertés, qui regroupe le Rassemblement National ou encore la liste de Matteo Salvini, remporterait 57 sièges au Parlement européen contre 36 lors de la dernière élection. Alors que pensez-vous de ces résultats? Êtes-vous inquiet du score réalisé par les nationalistes? Nous avons en ligne El Yamin Soum, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Tout d'abord, quelle analyse faites-vous de ces résultats aujourd'hui?
Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de percée du Front National, puisque si on compare à 2014, ils vont même alors perdre un siège. Ils en avaient 24 par rapport au scrutin précédent. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est l'effondrement de la gauche, puisque si on cumule les voix, alors pour analyser les Verts, c'est très compliqué parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plutôt libéraux, qu'on peut considérer dans le camp de droite, qui votent aussi pour le parti écologiste. Et autre analyse, c'est que la droite classique républicaine s'est effondrée aussi, puisque le score est extrêmement faible. Ce qu'on peut dire sur le Rassemblement National, c'est qu'il y a une installation, et on n'est plus du tout dans cette idée de contestation finalement, mais une véritable adhésion.
Donc c'est plus une installation durable dans le paysage politique français qu'une percée, en fait, c'est ce que vous dites.
Tout à fait. Et le type de scrutin favorise le Rassemblement National, puisque là, c'est un scrutin en un tour. Donc là, il y a la dimension de la proportionnelle. Si on avait la même chose sur le reste, on aurait dans les municipalités, pour la députation notamment, la même réalité par rapport ce qu'est le Front National, c'est-à-dire son poids réel avec ses réseaux, ses relais et puis sa dimension identitaire. Donc c'est une véritable installation dans le champ politique français.
Vous êtes d'accord quand certains observateurs disent qu'aujourd'hui que c'est la première force politique en France ? La première force d'opposition face à la République en marche ?
Ça dépend. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la première force aujourd'hui, c'est l'abstention. Il y a tout un tas de gens. La France est une société très politisée. On l'a bien vu, là, avec l'exemple des Gilets jaunes, des mois de mobilisation, etc. Alors, il y a eu des listes ou des personnes dans les listes, mais ça ne s'est pas traduit dans les urnes. Donc, il faut faire attention entre la réalité du vote, qui est quand même un outil d'analyse, et puis la réalité sociologique de la France profonde. C'est une des forces. Alors, dire que c'est la première, elle n'a pas de réseau non plus d'élus locaux. Finalement, là, pareil, c'est au Parlement européen, ça va être quoi la force ? Avec quel type ils vont faire des alliances ? Avec des gens d'extrême droite avec lesquels ils sont en opposition sur la question du rôle de la Russie ? On l'a bien vu lors des scrutins précédents, ils ont de véritables difficultés à peser, finalement. Par contre, ils peuvent peser sur l'idéologie, c'est-à-dire pousser les autres partis à se positionner, notamment la question de la droite républicaine, puisque aujourd'hui, tel que ça a été présenté notamment par le président et ses équipes, le président de la République, c'est de dire que ce sera un combat entre les progressistes et les populistes. Or, à jouer à ce jeu-là, on s'aperçoit que c'est extrêmement dangereux, puisque les populistes sont passés devant. Donc la question qui se pose, c'est par rapport au Parti républicain, quel positionnement ? Est-ce qu'ils seront mondialistes ? Est-ce qu'ils proposeront plus de frontières, plus de sécurité, etc. Ils ont un véritable poids idéologique.
Alors, c'est vraiment un rejet de l'Europe qui a motivé les électeurs à voter à la fois pour le Rassemblement National en France, mais pour d'autres pays, je pense en Italie ou même au Royaume-Uni. Est-ce qu'il s'agit d'autres, par exemple, d'autres motivations ? S'agit-il d'un vote plus un vote anti-immigration et anti-islam qu'un rejet de l'Europe ?
Il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement la dimension de ce qu'on ne comprend pas, ce qu'est finalement l'Europe, comment ça marche. Est-ce que finalement l'Europe ne nous approprie pas ? Il n'y a pas eu de véritable pédagogie pour expliquer qu'il y a quand même un siècle qu'on se tapait dessus, que l'Europe est un espace de paix, mais on a ce sentiment que finalement qu'on oppose en fait les citoyens européens avec les travailleurs détachés, toutes ces questions-là. Et je pense qu'on manque toujours, parce que c'est assez difficile de le dire, cette question de identitaire, c'est-à-dire que la transformation progressive, là on a vu encore un attentat, on va faire cette piste-là à Lyon, donc le terrorisme, l'islamisme, qui bien évidemment pose des questions, non pas à un rejet de l'immigration, mais d'une partie de l'immigration, notamment celle qui est liée à l'islam, qui est avec tous ces débats, est-ce que l'Europe a des racines judéo-chrétiennes, que faire de la présence notamment de l'islamisme, qu'on amalgame parfois de l'islam, donc la dimension à la fois économique, mais il faut surtout ne pas sous-estimer dans les analyses la dimension identitaire de peur qui sont inscrites aujourd'hui en Europe.
Restez avec nous, Elie Minsou, nous allons prendre des auditeurs. Vous pouvez appeler, je vous rappelle le numéro de téléphone, le 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également laisser des messages sur notre numéro WhatsApp, le 33 7 66 19 77 69, le 33 7 66 19 77 69. Ça, c'est pour le numéro WhatsApp. Nous avons en ligne Martial. Martial, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Martial. Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup. Écoutez, l'analyse que je fais du thème du jour, elle est toute simple. Je l'aborde sous trois angles. Le tout premier, c'est celui qui va concerner Il faut d'abord l'aborder, je l'aborde d'abord sous l'angle de l'instrumentalisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui utilisent cette force-là pour instrumentaliser la population, peut-être il faut voir en cela la réussite de cette instrumentalisation.
Instrumentalisation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que on cherche à faire peur, c'est ça?
Bon, voilà, voilà, c'est justement à ça que je voudrais faire allusion. Et puis, il y a cet autre aspect qui voudrait que ce soit un peu comme une réponse des autres, des extrémistes d'en face. C'est-à-dire que l'extrémisme islamiste qui a brillé de par ses actes de terreur, ça se trouve que c'est une réponse du berger à la bergère. Donc, il y a aussi ce deuxième aspect-là. Et le troisième aspect serait révélateur de l'état d'esprit des gens aujourd'hui dans la société.
D'accord. Mais,
étant donné que les lois sont là pour garantir certaines libertés et la sécurité des gens, il faut juste redouter que...
Quand vous dites l'état d'esprit de la société, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une radicalisation d'une partie de la société?
Non. Oui, mais tout cela est en droit de ligne avec les deux points que j'ai cités, c'est-à-dire l'instrumentalisation, la réponse aux extrémistes d'en face, c'est-à-dire que des groupes nationaux se forment pour dire, bon voilà, nous on va apporter une réponse à ce qui se passe chez nous. Vous comprenez un peu, c'est un peu comme des gardiens du temple. Et d'accord. Maintenant, ce troisième aspect que je suis en train d'évoquer, c'est celui qui est révélateur, c'est une résultante qui met les gens dans un certain état d'esprit. Mais seulement que, comme je dis, il y a des lois qui garantissent des libertés, ça c'est un fait, mais seulement il est à redouter et qu'on ne nous serve surtout pas ça, qu'on ne nous serve pas des comportements semblables aux extrémistes d'en face, où on va assister à des gens qui commettent des actes de terreur sous le prétexte de leur façon d'avoir...
Il y en a déjà eu, des actes de terreur, mais pas en France, mais je pense à un pays, notamment la Nouvelle-Zélande, où là il y a eu aussi un acte de terreur.
Vous savez que ce phénomène est contagieux. Et c'est un peu comme une religion. C'est-à-dire que vous avez les hooligans qui ont sévi à un certain moment. Aujourd'hui, on vous parle des Black Blocs. Et vous voyez que c'est un peu des groupuscules qui se côtoient. Et puis, à un certain moment, on a soupçonné même que ce groupe-là avait des affinités avec un certain type de personnes en France.
Oui.
Bon, moi, je dis, c'est des mots que je n'aime pas prononcer. Je dis tout simplement que qu'on nous serve les idées, mais qu'on ne nous serve pas la terreur, quoi.
Très bien. Merci, Martial, pour votre intervention. Vous pouvez intervenir, chers auditeurs. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 33 1 55 07 58 00, le 33 1 55 07 58 00. Que pensez-vous des résultats de ces élections européennes? Vous pouvez intervenir également pour commenter, par exemple, l'effondrement de certains partis politiques, que ce soit à gauche ou à droite. Nous retrouvons notre invité, Eliam Insoum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Alors, Eliam Insoum, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Martial concernant une société finalement qui est en train de se radicaliser et qui permet peut-être l'émergence de ces idées extrémistes et donc la montée de certains partis?
Si on prend les territoires aujourd'hui d'outre-mer, Mayotte, territoire qui est majoritairement musulman, me semble-t-il, 45% Front National, l'île de la Réunion, 31% Rassemblement National. Pareil pour la Guyane, où le Rassemblement National est en tête. Donc c'est des territoires où, je pense notamment à Mayotte et la Guyane, où il y a une question migratoire qui est centrale. Oui. Vous avez des Surinamais, des Brésiliens qui viennent. Et donc, la question de l'immigration, c'est la question aussi de la répartition des richesses, du partage. Enfin, il y a toute une dimension de dire finalement qu'est-ce qu'on a à perdre en accueillant d'autres populations. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de radicalisation dans la société des positions. Et puis, on est quand même à une ère des réseaux sociaux, des projections de groupes. C'est-à-dire, on a du mal, compte tenu de ce qu'est la mondialisation et tout ce qu'elle engendre, à se situer comme un individu. Donc on a la nécessité d'appartenir à un groupe. Et donc dans ces groupes, il y a ce sentiment d'être victime. Oui, on est victime du voisin, on est victime du migrant, on est victime de l'autre, etc. Oui, et c'est extrêmement compliqué de gérer ça d'un point de vue politique. Donc oui, on peut parler d'une forme de radicalisation. Alors ça se traduit pas dans les faits, les gens ne se tapent pas dessus, mais ça peut se traduire dans les urnes avec, une fois de plus, j'insiste, c'est l'installation du Rassemblement national. Ce n'est pas, ça n'a pas surgi de nulle part. Maintenant, ça fait une quarantaine d'années que le Front National est au au cœur des sujets de discussion. Donc on peut dire qu'effectivement il y a ça. Et puis par rapport à la question du terrorisme, c'est que le terrorisme est une islamiste, c'est un petit bout finalement de ce que représente le fondamentalisme. Il y a aujourd'hui en France un durcissement de la part d'un certain nombre de secteurs liés au fondamentalisme musulman qui, eux, posent des questions aux travailleurs sociaux, posent des questions concrètes. Hein. C'est pas parce que souvent on entend cette idée, c'est les médias. Non, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Mayotte à la Guyane, c'est le terrain qui parle. Hein. C'est pas une construction médiatique. Certains médias peuvent amplifier tel et tel phénomène, mais c'est le terrain qui fait que à Mayotte aujourd'hui, on rejette le migrant pour qui parfois c'est un cousin éloigné qui vient des îles des Comores.
Alors, vous êtes plutôt optimiste, vous ne pensez pas que tous ces partis réunis par exemple au sein d'une structure, je pense par exemple au rassemblement, au groupe Europe des Nations et des Libertés, ces groupes ne pourront pas bloquer le fonctionnement du Parlement européen, par exemple?
Il faudra voir comment le jeu d'alliance va s'inscrire, sachant que la difficulté c'est de se dire où va se situer la République en marche et où va se situer les Verts. Est-ce qu'on va les situer plutôt à gauche? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle des sociaux-démocrates? Est-ce que ce sont des conservateurs? Est-ce qu'ils vont être plutôt, ils seront pas a priori plutôt vers l'extrême droite? Donc là, c'est tout l'enjeu de toute la complexité de ce qu'est le Parlement européen. Donc non, je pense pas qu'on puisse penser ça. En plus, je pense que le poids, il est plutôt idéologique. La pression, c'est de se dire, si on veut au prochain scrutin passer devant, eh bien, il va falloir peut-être emprunter des bouts du discours, du langage ou des idées du Rassemblement national. Mais cette stratégie-là a été suicidaire pour la droite, puisqu'on a vu la ligne de Laurent Wauquiez, c'est de se dire qu'on emprunte le chemin du Rassemblement national. Mais la vraie question, une fois de plus, c'est quid de la mondialisation, des gagnants de la mondialisation, et quid de ceux qui vont réclamer de plus en plus de protection. Donc la protection, c'est les régions, les régionalismes, avec les cas de la Belgique, l'Espagne, etc., ou les nations qui offriraient un cadre plus protecteur parce qu'on a peur de la mondialisation, on a peur d'être en concurrence avec le travailleur détaché polonais, on a peur du terrorisme islamiste, on a peur du migrant qui vient à Guyane. Donc il y a cette peur.
Oui. Alors comment expliquez-vous que par exemple les populistes arrivent en tête dans certains pays, comme par exemple la France, et pas dans d'autres, comme alors l'Espagne par exemple, où on a vu par exemple récemment aussi une montée des idées dites extrémistes, mais pourtant ce sont les socialistes qui sont arrivés en tête?
L'Espagne, en fait, depuis la transition, la fin de la dictature 75, donc l'avènement d'une démocratie très récente, eh bien, il y a toujours une espèce de rejet idéologique de l'extrême droite en disant que ça va nous rappeler l'ère de Franco, etc. Aujourd'hui, la situation a changé. L'Espagne est une des sociétés réceptrices d'immigration, même si elle n'arrive pas à l'afficher, parce que beaucoup d'immigrants souhaitent aussi venir en France. Et donc, la question, c'est qu'il y a eu toujours un repoussoir, mais là où on peut s'interroger, c'est qu'en Espagne, il y a eu aussi un renouveau à gauche, notamment avec des mouvements comme Podemos qui apportent d'autres dimensions. Et on a vu une victoire de la gauche. La question, c'est qu'il y a aussi des trajectoires nationales et de quid des alliances. On a vu que la gauche était divisée lors des dernières élections présidentielles. Et elle continue ce jeu des divisions et elle a du mal aujourd'hui à offrir un projet cohérent, y compris sur la question de quelle sécurité elle peut offrir aux citoyens. C'est-à-dire il y a du mal à lire un certain nombre de lignes claires. Donc il y a quand même des trajectoires nationales qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre le contexte de tel et tel pays, même si on peut demain penser que l'extrême droite qui a commencé ses premières percées pourrait s'inscrire dans un rapport durable, parce que cette interrogation finalement du destin de l'Europe, elle est à l'échelle européenne, une fois de plus avec des nuances nationales selon les pays, selon les économies. Vous voyez le cas de l'extrême droite en Autriche qui perce, et malgré d'excellents scores économiques. L'économie autrichienne va mieux que l'économie portugaise ou espagnole, et pourtant, donc c'est pour ça qu'il faut être très nuancé, et bien comprendre que dans d'autres cas, dans le cas de l'Autriche, c'est aussi la dimension identitaire. La présence de musulmans provoque du rejet, ce qui amène à des évolutions législatives, de lois, où on veut autrichianiser, j'ai envie de dire, plutôt l'islam en Autriche. Donc il y a vraiment, il faut bien appréhender les trajectoires nationales de chaque pays.
33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00 Nous attendons vos appels et réagir concernant le thème du jour. Vous pouvez commenter les résultats des élections européennes qui ont eu lieu dans plusieurs pays, dont la France hier. Alors Elyamine Soum, avant de parler des autres résultats d'autres partis, Tout d'abord, ce résultat, cette montée de ou cette installation, comme vous dites, hein, des partis populistes, fait l'affaire de qui, par exemple, sur le plan international, plutôt de Donald Trump, le président américain, ou le président russe Vladimir Poutine, ou les deux?
C'est une bonne question, parce que si vous analysez ce qui s'est produit dans le Parlement européen lors des dernières années, eh bien, on constate que ça a été une vraie ligne de division. Et la difficulté, notamment pour Marine Le Pen, de contracter un jeu d'alliance, c'est que vous avez tout un tas de pays, oui, notamment d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui, eux, ne sont pas du tout sur la ligne de Vladimir Poutine. Et ils ont reproché à plusieurs reprises cette idée que, finalement, on refusait ce genre d'alliance. Ils sont même plutôt anti-russes, anti-gouvernement, oui, russe, entendons-nous bien. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est pas... ça peut profiter... Alors, idéologiquement, ça peut profiter, bien évidemment, aux deux populistes, hein, que ce soit Donald Trump ou encore à Vladimir Poutine. Ensuite, dans le jeu de la politique étrangère européenne, là, concrètement, ça pose beaucoup de problèmes, parce que vous avez tout un tas de secteurs qui sont souverainistes, mais qui sont aussi atlantistes, qui voient d'un très mauvais œil, pour des raisons historiques, hein, ouais, qui s'est passé en Europe centrale et en Europe de l'Est, cette question-là. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que ça peut tonifier, pour les prochaines élections, notamment les scrutins présidentiels pour les, ouais, pays, ça peut tonifier cette idée que, vous voyez, Donald Trump, avec un certain succès économique, vous voyez que l'économie est relancée aux États-Unis, etc., ça va pouvoir peut-être tonifier les populistes d'Europe de l'Ouest, et notamment en France, pour le prochain scrutin des élections présidentielles.
Alors, nous avons un message de William sur WhatsApp, qui a laissé un message sur notre numéro WhatsApp. Merci beaucoup, William, pour votre message. Alors, William n'est pas surpris, hein, de la victoire du Rassemblement National, car l'extrême droite, selon lui, a toujours été en tête de ces européennes. Et William félicite La République En Marche, qui a remporté des sièges pour la première fois. Alors, c'est une transition, hein, Elyam Insoum, pour parler des autres partis, notamment de La République En Marche. Tout d'abord, est-ce que vous avez le sentiment que le président Emmanuel Macron s'est un peu trop investi dans cette campagne électorale?
On peut s'interroger là-dessus, mais la question, c'est que je pense que pour lui, c'était un test, hein, à mi-mandat, pour voir un petit peu comment les choses allaient se dérouler. La vraie question, c'est de se dire quel est le positionnement aujourd'hui idéologique de La République En Marche. Oui. Est-ce qu'on les situe comme des centristes, des gens de gauche, des gens de droite? Donc là, il y a une vraie difficulté, et on la verra au moment où il faudra établir des jeux d'alliance au niveau du Parlement européen. Donc ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière,
c'est pas une défaite pour vous, à votre avis?
Non, on peut pas le considérer comme une défaite. Hein. Ouais. Le mandat, c'est toujours très compliqué comme ça, des élections. C'est même surprenant qu'ils aient autant de. On aurait pu s'attendre à un score plus important de la droite historiquement. Une fois de plus, la gauche est complètement divisée. Enfin, il y a tout un tas de problématiques. Beaucoup de gens ont quitté le navire socialiste. Mais c'est plutôt. Ça prélude qu'il y a quelque chose dans cette idée. Finalement, de dépasser les clivages, qui fonctionnent chez une partie de l'électorat qui est fidèle à Emmanuel Macron et à son parti.
Vous êtes d'accord avec ce que disait Nathalie Loiseau, qu'on a entendu au tout début de l'émission, que ce résultat permet d'ancrer durablement la République En Marche, à la fois dans le paysage politique français et européen?
Alors, durablement, ça, je ne sais pas, parce qu'il sera. Vous le voyez bien aujourd'hui, il y a cette logique de dégagisme. On a l'impression que c'est compliqué de dire. L'électorat peut être volatile. On peut parler d'un ancrage du Rassemblement National, mais La République En Marche, c'est compliqué, hein, c'est tout récent. Bon, on l'a bien vu, hein, souvenez-vous, avec le Modem, le score de François Bayrou, on pensait qu'il y avait quelque chose de l'ordre du renouveau, et aujourd'hui, quid du Modem. Donc, on peut mettre un point d'interrogation. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une base quand même. Il y a une base aujourd'hui qui s'installe. Il faudra voir maintenant, parce que les européennes, c'est un petit scrutin, comparé à ce que représentent les élections départementales, régionales et municipales, où là, on peut avoir un vrai parti politique avec des réseaux, etc. Et ça va être l'un des enjeux aussi pour le Rassemblement National, qui a très peu d'élus locaux, qui a très peu de relais, finalement, qui sont capables avec des moyens, hein, parce que les élus, ça permet aussi d'avoir des moyens de recruter des militants, etc. etc. Donc on peut dire que il y a une base, mais durablement, ça... Point d'interrogation.
Ouais. Et voyez-vous des conséquences peut-être sur la suite du quinquennat après ce résultat? On sait que, par exemple, les Gilets jaunes vont continuer de manifester, qu'il va y avoir encore peut-être de nouvelles critiques et des tensions, notamment avec les Gilets jaunes.
Là, ce qui est intéressant d'un point de vue des jeunes, c'est qu'on les voit pas par rapport aux résultats. Il y a une fois plus des listes, etc. Il y a une espèce de trompe-l'œil. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en France, il y a eu quand même 50% d'abstention. Et qu'est-ce que ces gens ont envie de dire ? On les voit pas dans toutes ces couleurs, dans tout cet arc-en-ciel. Où est-ce qu'ils se situent idéologiquement ? Quelles sont leurs revendications ? Et pourtant, ils sont là, et ça va être les infirmiers, les agriculteurs, etc.
Oui.
Une fois de plus, la société française est politisée. Donc, voilà. Ensuite, vous avez bien évidemment tous les analystes politiques, notamment proches du gouvernement, qui vont dire, bon, bah, peut-être qu'on aura... pour toujours courir après le Rassemblement National, une politique un peu plus Rassemblement National, encore plus d'affichage ou de lien avec la question de l'environnement et des écolos. Voilà, donc ça fait partie vraiment de la stratégie et qui pourra peut-être provoquer un certain nombre de changements.
D'accord.
Le scrutin ne va pas faire que les Gilets jaunes vont subitement arrêter de manifester.
Très bien. Alors nous avons un message WhatsApp de Victor qui vous pose une question, Liam Insoum. Il vous demande de ce que vous pensez du résultat du Parti Socialiste.
Alors le Parti Socialiste était l'air de Glucksmann, hein, on s'entend bien, parce qu'il y a eu la liste aussi de Benoît Hamon.
De Benoît Hamon, mais qui ne fait plus partie du Parti Socialiste.
Oui. Mais est-ce que, j'ai resté dans l'idée des socialistes.
Oui.
C'est ce que j'expliquais en début d'émission, c'est qu'on assiste vraiment, l'une des analyses qu'il faut avoir, c'est qu'on assiste à un effondrement de la gauche. Et ça, c'est à l'échelle presque, j'ai envie de dire, planétaire.
Mais il y a quand même eu une montée des Verts, du Parti des Verts qui réalise un bon score.
Une fois de plus, les Verts, il faudra analyser cet électorat-là. Est-ce qu'il est vraiment de gauche ? Parce que vous avez des gens comme Cohn-Bendit qui sont des libéraux, hein, d'un point de vue économique, qui sont très très proches finalement de la ligne des libéraux, d'un Alain Matelin, d'un Emmanuel Macron, etc. etc. Donc la question qui se pose, c'est que c'est un score presque miraculeux, puisqu'on a eu un espèce d'opportuniste qui s'appelle Glucksmann, qui est débarqué de nulle part et qui a pris la tête de l'élection, qui était un néoconservateur d'un point de vue des idées.
Ouais.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que...
Très rapidement, Liam Insoum, nous arrivons à la fin de l'émission.
La gauche s'est effondrée. Et l'un des enjeux de ce scrutin, c'est quid de la gauche et de son positionnement par rapport à où est-ce qu'elle se situe idéologiquement dans les années à venir.
Merci beaucoup, Liam Insoum, d'avoir participé à ce journal des auditeurs. Merci à Martial pour son appel et aux auditeurs qui nous ont écrit sur notre numéro WhatsApp. Merci à Maxime pour la réalisation. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Vous retrouverez Stéphanie Hertmann pour une nouvelle édition du journal des auditeurs demain sur Africa Radio.